Alors, il y a plein de choses à dire sur cette paracha. C'est une paracha où il y a énormément de mitzvot. C'est-à-dire, pour ceux qui se poseraient des questions, c'est l'une des parachas où il y a le plus de mitzvot dans toute la Torah. C'est-à-dire, 52 mitzvot, c'est pas rien dans toute la paracha. Et là.
L'otacé était assez.
Oui, oui, bah, mitzvot, ou positive ou négative. Mais avant de rentrer dans les mitzvot, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur une réalité. C'est que lorsque la Torah parle de quelque chose, eh bien, elle est sérieuse. C'est un grand concept que j'aimerais qu'on se mette d'accord. Que si la Torah dit quelque chose, c'est pas pour du beurre. C'est pour de vrai. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que il y a un grand principe dans la Torah qui nous dit « En mikra yotze » Midé Peshuto. C'est-à-dire qu'avant de donner des explications ésotériques ou par allusion ou des explications qui nous font penser à ce qu'on appelle dans le langage de la Torah des vortim, des petites vartoras tout sympathiques, ce qui est toujours très bien et on le fait tous, hein, y a pas de problème. Il faut être conscient quand même que le vort, c'est pas le pshat. D'accord? Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu ouvres la paracha et que tu dis Kitetse la milchama aloyevecha, untano Hashem Elohecha beyadecha veshavita shivyo. De quoi on parle? Lorsque tu sortiras en guerre contre ton ennemi, et Dieu te le donnera dans ta main, et tu arriveras à prendre des otages,
captifs.
Des captifs. De quoi parle-t-on? Je vais le traduire en français, hein, peut-être que je le fasse en anglais aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? C'est quoi le contexte? On parle d'aller faire un foot?
C'est tellement simple pour ne pas
compliqué. Mais non, mais alors justement, parlons. Ben, on est simple. De quoi on parle? On fait la guerre. Voilà, on fait la guerre. Alors, pas forcément pour conquérir des terres à l'extérieur. Ça peut être la guerre que Dieu nous a ordonné de faire pour conquérir la terre d'Israël, par exemple. Alors, tu sortiras en guerre. Tu sortiras de ton camp pour aller en guerre. Ok, ça peut être des guerres extérieures, comme tu dis. Ça peut être aussi simplement les guerres que Dieu nous a ordonnées. On est à la fin de Dvarim. Donc, dans deux secondes, on va devoir rentrer dans le Sefer Yehoshua. On va devoir faire la guerre contre les peuplades cananéennes. On est d'accord? Donc, c'est pas chaud, c'est marqué. Lorsque tu sortiras en guerre, Agav, faut pas aller chercher midi à 14h. On a lu la paracha de Shoftim la semaine dernière. La fin de la paracha nous a déjà lancé les lois sur la guerre. D'accord? Je n'affabule pas. Pourquoi je vous fais cette introduction?
Il y a une allusion.
Non, il n'y a pas d'allusion. C'est pas une allusion. C'est important de comprendre. C'est pas une allusion. C'est ce qui est dit. Eh ben voilà. Je savais que tu allais arriver à ça. Tu vois? Je le savais.
C'est pas vrai.
Non, j'ai pas dit que c'est pas vrai. Rashi nous dit. Mise à Milcha, mise à Oyefra. Ken? Alors, d'abord, il te dit, Bemilchemet Areshut, Akatoub Medaber, Shemilchemet Eretz Israël, En Lomar Beshavita Shivio, Sharikvar Nehemar Beshivata Umot, Lotechae Kol Neshama. Donc, Rashi, il te dit, d'abord, Rishon, sache que, on parle ici, comme tu disais, d'une guerre de Reshut. C'est-à-dire pas contre les sept peuplades cananéennes, parce que dans les sept peuplades cananéennes, il n'y a pas de. Aïe. Non. Mais Kitzur, il te dit dans le Milchemet Mitzvah, il n'y a pas de Shivio, puisque tu dois tous les tuer. Mais on a vu dans Milchemet Midian, qui est une Milchemet Mitzvah, où on a, oui, pris des otages. Mais sauf que Milchemet Midian, c'est un statut particulier parce que c'est une Milchemet Mitzvah, mais pas les Dorot. C'est une Milchemet Mitzvah que pour l'époque de Moshe. Kitzur.
Les Dorot, c'est pour les.
Pour les toutes les générations. Maintenant, dans tous les cas, quand on nous parle ici de Milchama, on nous parle de Milchama. Seulement, qu'est-ce qu'on va entendre dans toutes les synagogues? Que Kitetse la Milchama l'Oyevecha, c'est qui Oyevecha? Eh bien, c'est. Le Yetzera. Nous dit Rashi, Velakarta le Chaisha, lo dibra Torah ella keneged Yetzera. Alors après, on va te parler de toutes les halachot par rapport à la Isha et Fat Torah. Mais c'est qui le Oyev dans les synagogues? Le rabbin te dit Oyivra za Yetzerara. Et donc il faut partir en guerre contre ton Yetzerara. Et veslemaze shavita shivio. Eh bien, ça veut dire que tu vas voir dans le, même dans ton Yetzerara qu'il y a une Nekuda Tova, qu'il faut dévoiler. Et comme ça, tu pourras faire tshuva. Rabbi Nachman Breslav, Torah Resh Pebed, écoutez-moi Aran. Tout ça, c'est vrai. Mais c'est pas le pshat. D'abord et avant tout, on nous parle de sortir en guerre. Alors évidemment, pendant 2000 ans en exil, on n'avait pas, ça voulait rien dire pour nous de sortir en guerre. Donc on s'est concentré sur l'allusion. Mais il faut redonner à la Torah sa grandeur. C'est-à-dire son sens là. Donc on te dit, Veraita bashivia eshei efat toar vechashak taba velakarta lecha leisha. Aha. Donc tu vas revenir de la guerre. Tu es minastam déjà marié, machin. Chérie, je suis rentré. J'amène un petit cadeau. Et tu ramènes Isha Yefat Toar. Maza si posé. Maza Isha Yefat Toar. Ah bah, Isha Yefat Toar. Tu vois dans le camp des prisonniers une jeune femme et tu te la kiffes. Et qu'est-ce qu'elle te dit la Torah?
Yala.
Ah, Yala. Tu fais comme ça. D'abord, elle te la permet. Elle te la permet. Bah, pourquoi on te dit pas l'eau à sourd? Alors, tu dis, elle nous la permet sous condition. Nachon. D'ailleurs, c'est quoi les conditions? Bah, on te dit, pendant un mois, elle va se raser la tête, elle va pleurer, elle va mettre des habits tout moches, et elle va se faire une manucure.
Mais il y a une chose que je comprends pas.
Attends, deux secondes. Mais non, hein. Qu'est-ce que tu veux lui demander son avis? Elle est prisonnière. Mais elle est prisonnière. De quoi tu parles? Toi tu viens.
Tu veux l'épouser, la plus statue de prisonnière.
Mais d'abord, là pour l'instant, tu l'as pas encore épousée. C'est vrai? Maintenant, elle a pas un statut à l'époque où elle peut se permettre de dire quoi que ce soit. Est-ce que c'était bien? Non, c'était pas bien. Est-ce que c'était l'époque? Oui, c'était l'époque. C'est vrai? Malasot. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on va te dire? Il y a plein de choses comme ça dans la paracha d'Afka de cette semaine. On va te parler de réalités qui nous paraissent complètement absurdes. Ça, à la fin de la paracha, on va te parler de qu'est-ce qui se passe quand un homme il viole une femme. Alors il doit se marier avec elle. Attends, mais tu crois vraiment qu'aujourd'hui une femme elle accepterait de se marier avec son violeur? Alors à l'époque aussi, elle a la possibilité de dire non, mais elle dira pas non à l'époque. À l'époque, une femme qui s'est fait violer, bien sûr qu'elle dira oui pour se marier avec son violeur. Parce que plus personne ne pourra se marier avec elle à l'époque. Alors est-ce que c'était bien? Non, c'était pas bien. Mais est-ce que donc pour l'époque, la Torah elle donne au violeur sa responsabilité, tu as porté atteinte à cette jeune femme, et bien maintenant c'est toi qui vas devoir subvenir à ses besoins pour ta vie. Donc, est-ce que la situation de l'époque, elle était idéale? Non, mais elle était ce qu'elle était. Elle m'a la sorte.
C'est difficile de dire à l'époque sur la Torah.
Enfin, je veux dire, non, mais je... Vas-y.
Comment on peut dire à l'époque sur la Torah? Parce que tu sais la Torah, c'est pas maintenant.
Eh bien, je te pose la question. Est-ce que tu as chez toi des esclaves?
Non, mais...
Pourquoi? La Torah elle a dit qu'on peut prendre des esclaves.
Oui, bien sûr. Pourquoi? Limiter ça à l'époque sans dire qu'on va tirer quelque chose aujourd'hui.
Évidemment, on va en tirer quelque chose, mais il faut bien comprendre que...
Non.
Pourquoi pas? Il y a des choses que la Torah nous a données dans son texte, qui sont pas aujourd'hui, mais au niveau de la halakha, qui sont pas acceptables. Par exemple, aujourd'hui, la halakha, elle nous permet pas de nous marier avec deux femmes.
Oui,
la Torah, elle nous permet. Donc ça veut dire que la Torah, telle qu'elle nous a été donnée, il y a oui à l'époque. Et c'est là qu'il faut bien faire la différence entre la Torah écrite et la Torah orale. Quand tu dis, c'est dur de dire la Torah à l'époque, c'est parce que tu te dis la Torah, elle est intemporelle. Tu as raison, mais quelle Torah? La Torah orale. La Torah écrite, elle est super temporelle. Elle a été écrite, donc donnée, à une époque X. Et donc, toute l'ambiance des versets, ils dépendent d'abord de l'époque dans laquelle ils sont donnés. Il y a des mots qui sont utilisés dans la Torah que même à l'époque de la Gemara, ils ne savent pas ce que c'est. Parce que c'est des mots qui ne sont plus utilisés. Ou alors, combien ça vaut? Par exemple, on va te dire justement dans la paracha que si jamais il y a quelqu'un qui porte atteinte à une jeune fille, il va devoir lui donner « Kemohar à Betulot », la dot des vierges. Combien c'est? D'où tu sais? C'est pas marqué dans la Torah. C'est-à-dire que on va te faire des pieds et des mains dans le Talmud pour t'expliquer combien c'est. Mais pourquoi la Torah ne l'a pas dit? Parce qu'à l'époque, tout le monde le sait. Parce que Mohar Abetoulot, c'est une convention de l'époque. Après, quand on n'est plus dans cette réalité-là, alors on est obligé d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Donc, la Torah orale, qui commence avec Moshe, autant que la Torah écrite, la Torah orale, elle, elle est intemporelle. Pourquoi elle est intemporelle? Justement parce qu'elle va évoluer de génération en génération. C'est la même Torah, mais qui doit faire face à la réalité. Et donc, eh bien, par exemple, la Torah, elle va nous dire dans le texte de la Torah, tu ne tueras pas. Sauf que dans la Torah orale, des fois, tu tueras. Ça va dépendre. Donc, quand je te dis, il faut faire bien attention à l'époque dans laquelle les choses sont données, l'ambiance qui nous est marquée dans la Torah, et je parlais de l'esclavage tout à l'heure, je reviens dessus, l'esclavage à l'époque de la Torah, c'est pas quelque chose qu'on peut imaginer vivre sans. C'est tellement ancré dans l'époque que la question de savoir si on a des esclaves ou on n'a pas des esclaves n'est pas une question. Donc la Torah, elle vient et te dit, dans cette réalité-là, moi je vais te donner des lois sur l'esclavage. Et être esclave chez les juifs, c'est être à l'hôtel 5 étoiles.
Ben oui.
Comparé aux autres. Mais, Baruch HaShem, il y a 400 ans à peu près, le monde a compris que l'esclavage n'était vraiment pas bien. Bon, ça a mis du temps et c'est juste qu'il y a 200 ans que ça a été vraiment aboli plus ou moins partout. Baruch HaShem, la Torah, elle a pu dire à ce moment-là, les rabbanim, on dit, mais c'est assourd complètement l'esclavage. C'est assourd. Halakha, c'est assourd d'avoir un esclave aujourd'hui. Baruch HaShem, que la Torah orale, elle continue de génération en génération. Et ce que la Torah écrite n'a pas dit, parce qu'à l'époque, ce n'était pas audible, eh bien aujourd'hui, la Torah orale, Baruch HaShem, elle le dit. Exemple, aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait te dire, l'électricité, c'est assourd? Pas Shabbat, hein. Stam. L'eau va d'aille chez l'eau. Parce qu'aujourd'hui, personne ne va vivre sans électricité. Ah, donc maintenant, la Torah, elle est obligée de s'occuper de cette question-là d'électricité. À l'époque du Tanakh, on ne s'occupe pas d'électricité. Parce que ça existe, mais on ne sait pas l'utiliser. Donc ça ne nous parle pas, le Tanakh n'en parle pas. C'est-à-dire, donc la différence entre la Torah écrite, qui est écrite à un moment donné, et qui est donc comprise. T'imagines bien que nos ancêtres, qui ont reçu la Torah, ils ne la comprennent pas comme nous. C'est pas shoot. Bah, évidemment, ils ont plein un système de valeurs, ils ont des connaissances que nous on n'a pas, et nous on en a que eux ils n'ont pas. On est d'accord là-dessus? Évidemment. Dieu, il parle au Bnei Israël. Et d'abord, un, le langage n'est pas le même. Deux, l'ambiance n'est pas le même. On n'a pas le même vécu. C'est évident. Kadosh Baruch Hu, dans la Torah, il nous dit qu'on n'a pas le droit de mélanger Tzemer ou Pishtin Yardav. On parle de mélanger le lin et la laine. Et nous, on s'habille en coton. Ça ne veut rien dire pour nous de ne pas mélanger le lin et la laine. Alors on te dit, c'est un choc. C'est à Kadosh Baruch Hu, il nous a dit, on fait, on ne discute pas. D'abord, on fait, bien sûr qu'on fait. Ce n'est pas la question. Mais la question est de savoir pourquoi on fait. Alors, parce que Dieu, il nous a dit. Nachon, Badaï. D'abord et avant tout, parce que Dieu, il nous a dit. Mais viens, on essaie d'aller un peu plus loin. Pourquoi il nous a dit ça? Mais parce que quand tu es un Hébreu qui sort d'Égypte, qui a vu pendant 210 ans, parce qu'on était en Égypte pendant 210 ans, que les Égyptiens s'habillent en lin, et que toi, les Hébreux qui avaient des bergers, tu t'habilles en laine, quand on te dit, tu mélanges pas le lin et la laine, qu'est-ce que ça veut dire chez toi? Ça veut dire pas d'assimilation, ça veut dire on ne se mélange pas avec les Égyptiens. Mais c'est un truc qui est évident pour eux, pas pour nous. Parce qu'on n'a pas vécu dans la même ambiance. D'accord?
Et on pourrait pas dire que c'est aujourd'hui la plus d'intérêt.
Chas v'shalom. Chas v'shalom. Parce que c'est pas parce qu'on a donné une explication qu'on a donné toutes les explications. D'autre part, même si aujourd'hui on s'habille en coton, le fait que tu saches que le chatnez c'est aussi une séparation par rapport au goïm, cette séparation est toujours nécessaire aujourd'hui. C'est vrai ? Donc, tout ça pour dire que, évidemment, qu'il faut relire la Torah dans son contexte. C'est vrai ? C'est la première chose. La deuxième chose, il faut ramener les mitzvot dans leur contexte. Et là, on te dit, on a pris Isha Efat Torah. Le Rav Kook va nous expliquer dans Mitzvot Areiya que si tu cherches tout le temps des explications dans le passé, c'est bien beau, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut également donner des explications de l'avenir. Parce que il y a certaines mitzvot qui nous paraissent complètement obsolètes aujourd'hui. L'otochlu à la dame. Mazé l'otochlu à la dame. C'est qu'on n'a pas le droit, avant de faire le repas, de faire, de mettre du sang sur le sol. Bah, à l'époque, on avait l'habitude de creuser un petit trou. Ça, on était assis en rond, on faisait un petit trou par terre, on mettait du sang dedans et on appelait les esprits. Pas mal, hein, petite ambiance ce soir et tout, tu fais un petit mangal, t'as envie d'amener les grands-parents qui sont plus là. L'otokhlu à la dame. Assaut. C'est le dernier mot. Mais aujourd'hui, personne ne va faire ça. Enfin, pas que chez les juifs, hein. Même le marabout de Paul Pogba, il ne fait pas ça. Alors quoi ? Nous dit le Rav Kook qu'il faut trouver maintenant des explications qui font aussi référence à l'avenir. Pas seulement c'était comme ça, mais c'est quoi l'idéal qui sera ? Donc là, quand on te parle de Yishai Yefat Tohar, on te dit Veraita Bashivia Eshet Yefat Tohar. On l'a dit tout à l'heure avec notre étude sur le Rav Kook. Aïcha shel HaKadosh Baruch Hu, Zanachu. Donc il faut que tu trouves également Aïcha Yefat Tohar. Il y a quelque chose dans ce Chevi qui vaut le coup d'être ramené dans Israël. Il y a quelque chose chez les Goïm qui mérite d'être rattaché à Israël. Il y a des étincelles qui méritent d'être rattachées. Et c'est ça, l'Aïcha Yefat Tohar. Je ne te parle pas forcément textuellement. Textuellement, on a dit, c'est un mec, il a vu une fille, il est chaud. Mais profondément parlant, de quoi on parle ? On parle de ces étincelles de sainteté qu'il y a à aller chercher chez les Goïm. C'est plus le pshat. C'est pour ça que j'ai dit d'abord le pshat. En mikra yotse mide pshuto. Une fois que tu as dit le pshat, alors tu peux aller plus loin. D'accord ? Oui ?
Dans ce cas-là, elle est contrainte.
Ah bah elle n'a pas vraiment le choix. Ouais.
Comment on peut imaginer que dans ce cas-là, si on prend le cas où elle est contrainte, comment on peut convertir quelqu'un au contraignant ? Il n'y a pas, faut pas, alors c'est pour convertir des gens de force chez nous ?
C'est pour ça que, c'est quoi le processus pour la faire venir ? D'abord, pendant 30 jours, elle doit pleurer ses parents et machin.
Le processus, c'est plus pour l'homme.
Pour le calmer, lui.
Oui,
Nakhon. Nakhon. Regarde comment elle est moche, machin. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas relevé, mais Veasta et Tsipornea, c'est la manucure. Elle s'est fait les ongles, mamash, yofi, yofi. Alors, c'est bizarre. Comment ça se fait que tout le reste, on lui dit de se faire tout moche, et les ongles, on lui dit de se faire yofi, yofi. Il dit parce que la mocheté, elle va être mise encore plus en valeur s'il y a quelque chose de beau. C'est-à-dire, tu vois, t'aurais pu être très très belle. Ah, pourquoi tu t'es fait moche ? Alors oui, tu dis, c'est pour que l'homme s'accame ses ardeurs. Maintenant, pour elle, elle a aussi besoin de faire son deuil. Si maintenant elle va accepter de faire partie du peuple juif, elle doit faire son deuil par rapport à ses parents, à son identité, à ce qu'elle était avant. Au bout des 30 jours, lui, il est plus calme, et elle doit faire un choix. C'est-à-dire qu'il ne peut pas la faire rentrer Betor Beita sans les mêmes critères qu'une femme d'Israël. Donc elle doit accepter, tant de se convertir que de se marier avec lui, elle peut refuser. Veveta el tor betecha. Chazal, ils vont nous dire que ça s'appelle, c'est la même explication qui est la même formulation qui est donnée pour Stam Bat Israël. Donc de là on apprend sur de là. Évidemment, on va pas rester marié avec une. Maintenant, la Torah te dit tout de suite. Oui, mais attention, sache que quoi qu'il arrive, un ressentiment va rester. Parce que même si maintenant elle est d'accord, et même si finalement elle voit que ça vaut peut-être plus le coup de rester chez le vainqueur que chez le vaincu, tu l'as quand même arraché à son identité, tu l'as arraché à sa famille, tu l'as arraché à sa maison. Donc ne viens pas te plaindre. Et donc on te dit, pourquoi est-ce que la Torah, elle a collé la paracha de l'Aïcha et Fattoar à la paracha du Ben Soré au Moré?
Et avec Elul aussi.
Azov Elul. Et Loul, t'es rentré dans, encore une fois, le midrash qu'il faut faire tchouva et tout ça. Mais là, pourquoi la Torah, elle a collé l'histoire de l'Aïcha et Fattoar avec l'histoire du Ben Soré au Moré? Parce que voilà, te dis, malasot, tu vas commencer à avoir une Aïcha et Fattoar. Dis-toi que les enfants, ça va pas le faire. Parce que toi, tu vas lui donner une éducation à Israël, ça. Et maman, c'est-à-dire, nous étions le Girgashi. Nous étions à Yevoussi. Et tu te rends compte, on avait une idéologie extraordinaire. Et ton père, là, avec ses barbares de copains, regarde ce qu'ils nous ont fait.
Mais la mère, quand même, au Beit Din. Ok, le père et la mère, dans le Beit Din. En fait, le père.
Parce que l'Oshama. Non, mais qu'est-ce qui a marqué l'Oshama Bekolenu ? C'est-à-dire, pour qu'il soit Bensoré ou Moré, il faut qu'il y ait une voix dans la maison. Et on dit, Zéloïcré. C'est pour ça que la Gemara te dit Lo haya velo nivra ben tsore umore. C'est jamais arrivé. Pourquoi c'est jamais arrivé? Parce que concrètement, pour qu'un couple comme ça il soit en osmose, il va falloir se lever très tôt. Dans les faits, non, la sorte. Donc, tout est bien mis en place pour que. Sauf que tout ça, on a bien dit, ok, à la khat, ce que tu veux. Et pourquoi Mazerachouf. Puisqu'on a dit, ok, il faut comprendre l'époque, machin, mais tu as dit toi-même, ça ne suffit pas. Si ça ne nous apprend pas quelque chose aujourd'hui, Zma. Alors, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Regardez ça. Pasouk tetva. Très bizarre ce pasouk. Kitiena le ish. Shtenashi. Oui, pourquoi est-ce qu'on te dit ça lorsqu'un homme aura deux femmes? Ben, il vient de ramener une autre de la guerre. Mais est-ce que c'est que pour la guerre? Non. Si un jour il a deux femmes. Ok? Ahat Aouva Vahat c'est Noa. Je comprends pas. Alors pourquoi il s'est marié avec elle? Ben, s'il la déteste, pourquoi il s'est marié avec elle?
Il pensait qu'il aimait, mais quand il a rencontré l'autre, c'était le coup de foudre. Il a dit à celle-là, je préfère être avec elle que la première.
Et donc, ça veut dire qu'il déteste l'autre maintenant?
Ben, elle va. Par rapport à la. Oui.
Quoi? J'ai rencontré une fille, je l'aime. Je me suis marié. Oui. Deux ans plus tard, j'ai rencontré une autre fille, je l'aime. Je me marie aussi. Est-ce que ça veut dire que je déteste la première?
Oui. C'est réveillé.
C'est pas automatique, mais ça peut changer.
C'est possible, mais c'est pas automatique. Il n'y a pas de raison. De dire que parce qu'il en aime une, il déteste l'autre.
Ça peut arriver.
Donc, est-ce que tu es en train de me dire que le verset nous parle d'un « ça peut arriver »
ouais.
C'est quand même un cas qui est...
On ne peut pas penser que c'est systématique.
Bah, j'espère bien.
Non, ça peut arriver.
D'accord, donc la Torah elle a besoin de nous parler de cas qui sont simplement hypothétiques. Un grand principe, la Torah ne nous parle pas de cas qui sont rarissimes. Et attends, c'est pas, ça ne suffit pas, ça ne s'arrête pas là. Vaya ben abechor lasnia. L'aîné, il est de celle qu'il aime et qu'il déteste. Vaya beyom anchilo et banav, quand il devra donner l'héritage à ses enfants, et à cherielo, lo yochal levaker et ben aouval pene ben asnoa abechor. Il ne pourra pas donner au fils de celle qu'il aime, parce que c'est l'aîné qui doit recevoir la part de l'aîné, même si c'est celui de celle qu'il déteste.
Il est mal barré, parce que déjà il détestait au départ.
À votre taille.
Sa mère, elle est détestée.
Venez, on fait un peu de céder. C'est noir, ça ne veut pas dire qu'il la déteste. Parce que l'isno batora, ça ne veut pas dire détester. Détester dans la Torah, ça se dit lesané. Alors, est-ce qu'on se rappelle de l'ulpan? Les amis, on va à l'ulpan ce matin. Ok? Il y a plusieurs formes grammaticales au niveau des verbes. Il y a un truc qui s'appelle le cal. Vous pouvez me donner un verbe du cal, du poual.
L'échol.
Hein? L'échol. L'échol. Ani. Ochel. Yafé. Lichtov. Ani. Kotel. Yafé. Il y a une autre forme grammaticale qui s'appelle le piel. Vous pouvez me donner un verbe de piel? Pas les hits. Et les gars, l'ulpan? Comment ça? Quoi? Les daber. Ani medaber. Ok? Les daber. Ani medaber. Ok? C'est du piel. Quelle est la différence entre le cal et le piel? Yesh ani dover. Ok? Lidvor. Ani dover. Ani medaber. Quelle est la différence entre les deux formes? Il y en a une qui est, comme son nom l'indique, cal, et l'autre qui est poel. Ani dover, je récite un discours. Ani medaber, c'est moi qui parle. C'est Sheli. C'est Yoter Chazak. D'accord? Donc, lesané, ça veut dire je te déteste. Ça, c'est lesané. Et c'est ce qu'on dit à chaque fois qu'on ouvre le Aaron à Kodesh. Vei binso Aaron, vei omer Moshe, kuma Hashem, vei afutsu oyevecha, vei anusu, kuma? No? Mesan echa. Mesan echa. Ok? Donc, lesane. Ça, c'est détester. Lisno. Ça veut dire littéralement en hébreu, aimer moins. aimez-moi. D'où on sait. Vous avez entendu parler d'un monsieur qui s'appelle Jacob, ou de son petit nom, alors il y a Rabbi, mais il y avait aussi Jacob Abinou. Tu te rappelles de Yaakov Avinou? Yaakov Avinou, il est tombé amoureux d'une jeune fille. Comment elle s'appelait?
Rachel.
Il l'aimait ou il l'aimait pas?
Ah ouais.
Ah ouais. Puis après, on lui a donné une autre jeune fille.
Léa.
Léa. Il l'aime ou il l'aime pas, Léa?
Moins.
Un peu moins.
Il l'aime ou il l'aime pas quand il se marie avec elle?
En principe, il l'aime pas.
Au moment où il se marie, il pensait que c'était Rachel.
D'accord, maintenant c'est plus Rachel. Il est avec elle.
Eh ben...
Il l'aime ou pas?
Oui.
Oui,
oui.
Moins.
Moins?
Katouf Batora. Vayehav Yaakov Gam et Rachel Mi Léa. Qu'est-ce que ça veut dire Vayehav Gam et Rachel? Il a aimé
aussi
Rachel. Donc ça veut dire que.
Il a commencé avec Léa.
C'est-à-dire que Léa, il l'aime.
Ouais, mais au sens biblique.
Non. Vayehav, Gam. C'est les... Pourquoi tu différencies? Pourquoi tu différencies? Quoi?
Aimer, c'est le dire avoir des relations.
Non, pas forcément. Aimer, c'est pas que avoir des relations. Aimer, c'est aussi aimer. Vayehav, Gam et Rachel. D'après là, on voit... c'est sûr qu'il ne s'agit pas de relations. Miléa. Ça veut dire quoi? Miléa. Plus que Léa. Il aimait Rachel également, mais plus que Léa. Verset suivant. Vaya Rachem, qui se noie Léa. Et Dieu a vu que Léa était ses noix. Donc ça veut dire que l'isno, ça ne veut pas dire détester, mais ça veut dire aimer moins. Donc, kitiena leish ne nashim, achat ahuva.
C'est
noix, elle est aimée moins.
Vous avez dit que c'est une forme de renforcer plutôt que
piel. Oui.
Donc ça devrait renforcer le fait qu'il aime, pas le dire qu'il aime moins.
Mais là, c'est pas du piel.
Qu'il aime,
pas... Non, mais là, c'est pas du piel. Là, c'est du cal.
Ah,
c'est pour ça. Ok. Vaya Hashem, etc. Vaya Hat Aouva, Vaya Hat Senoa. Vaya Ben Abechor. La Senia. Mais de quoi on parle? Regardez, la Torah, elle nous parle d'un verset qui, a priori, c'est un cas quand même très rare. Un homme se marie avec deux femmes, il y en a une qui l'aime moins. Et le Ben Abechor, il est d'Afka de la Snia. Quand il arrivera le moment de faire l'héritage, il ne faudra pas changer de celui qui est vraiment le Bechor. Mais, les amis, de quoi la Torah nous parle? La Torah nous parle de Maase Avot Siman Labanim. Eh oui. Ici, il est clair qu'on nous fait référence à quelqu'un à qui c'est arrivé. Eh oui. Yaakov et Yosef. Alors, et tous les problèmes du peuple juif ont commencé parce qu'il y avait un homme qui avait deux femmes. Achat Ahuva va Achat Senua. Et le Ben... Non! Non! Non, pas Agar! Pourquoi pas Agar? Non! Rabotai, tu le sais en plus.
Parce que c'est Sarah qui lui a donné.
Non! Non! Ne me dis pas Sarah qui lui a donné. Parce que Agar, à aucun moment, n'est la femme d'Abraham. Il lui a fait un enfant, et alors c'est pas sa femme. C'est pas sa femme. À aucun moment le statut de Hagar, ce n'est pas la femme d'Avraham. Ni d'Avraham, ni d'Avraham. À aucun moment Hagar, elle a un statut de femme.
Le fait qu'il ait eu...
Il est donc, il n'est pas Bechor. Il est Ben Ashifra. Il est le fils de la servante. Tant qu'il n'y a pas d'autre fils, c'est lui l'héritier. Mais dès qu'il y a un fils de la femme légitime, il devient fils de servante. Il n'a droit à rien, Ishmaël.
Mais Bia, ça ne suffit pas pour se marier. Donc,
dans la Torah. Dans la Torah, on te dit que Beshtoshad Rachim, Janiknet. Et une des trois, un des trois moyens, c'est Bia. Mais pas avec une chifra. Non, Vadaï Shelo. À aucun moment, Agar prend un statut différent. C'est justement.
Il aurait été marié.
Si quoi?
Si c'était pas une esclave.
Ah, ça avait pas été une esclave, c'est autre chose. Mais là, tout le problème avec Sarah, c'est qu'elle dit Natati Shifrati Bechekecha. J'étais ma servante. Et là, elle se prend comme si c'était une femme légitime. Elle prend la confiance. C'est ma servante.
Il n'y a pas le droit de Nachala, alors.
Mais bien sûr qu'il n'a pas le droit de Nachala. C'est pour ça que Ishmael ne peut pas accepter l'existence de Yitzhak. Parce que s'il y a Yitzhak, il n'a droit à rien. S'il n'y a pas Yitzhak, il a droit à tout.
Donc c'est normal qu'il
Donc tu comprends que l'islam a un problème de reconnaître Israël en tant qu'identité.
D'où la haine.
D'où le fait qu'on ne peut pas reconnaître l'État d'Israël. Et d'où le fait que la teshuva de Ishmael, c'est lorsqu'il accepte Yitzhak.
Alors la teshuva d'Ishmael n'engage que lui-même.
Quand il était Ishmael. Pour ce qui est de sa descendance au niveau idéologique, l'islam, l'islam fera teshuva lorsqu'il acceptera Israël.
L'islam et Ishmael, c'est deux choses différentes.
Bah, Ishmael, c'est l'archétype. Ça, c'est l'origine. Mais aujourd'hui, l'islam doit faire teshuva. Et comment l'islam doit faire teshuva? Il ne doit pas faire teshuva au niveau de ses pratiques religieuses. C'est-à-dire que l'islam, il peut rester musulman. Le musulman peut rester musulman. Il n'y a pas d'idolâtrie dans l'islam. Son problème, au-delà de la violence et de ce que tu veux, son problème par rapport à nous, c'est d'accepter non pas Abraham, mais d'accepter Israël. Et une fois qu'il accepte Israël, une fois qu'il reconnaît l'État d'Israël en tant que bah, l'identité de Israël, alors c'est bon, il peut faire tu vois. Il y a encore de l'eau qui doit passer sous les ponts. Les seuls qui ont pour l'instant commencé à faire ça, c'était les accords d'Abraham. Puisque l'Égypte et la Jordanie qui ont fait la paix avec nous, c'était des pays musulmans, mais laïcs. Donc il n'y a pas cette dimension profonde de l'islam qui reconnaît. Mais Ezrat Hashem,
ça viendra. On voit le comportement de la Jordanie.
Ça adhère, mais ça c'est de notre faute. Faut pas s'étonner quand tu n'arrêtes pas de répéter à quelqu'un que tu n'es pas le Baal HaBayit. Faut pas s'étonner que la personne elle pense que tu n'es pas le Baal HaBayit. À un moment donné, il ne faut pas se voiler la face. Bekitsour, tout ça pour dire que Barou ici, qu'on nous parle de quoi? De l'histoire entre Yaakov et ses deux femmes. Pas entre Abraham et Sarah et Agar. Yaakov il a Rachel et il a Léa, Chadaouva, Vachatsenoa, Vaben Abechor, ou le Léa. Et Yaakov il décide de donner à Yosef.
Avec
Bila.
Avec
Bila. Qu'est-ce que
c'est pas
en quoi c'est alors, je croyais. Donc, alors, tu sais quoi, si je vais dans ton sens.
C'est à cause de l'acte de Réhouven.
D'abord, c'est pas parce que Réhouven, il a fait une avéra que ça lui enlève le statut de Bechor. C'est d'avoir Rishon. Au niveau de la halakha, je te parle. Au niveau de la halakha, c'est l'eau parce que c'est pas parce que tu as fait une erreur que ça t'enlève ton statut. C'est parce que si on rentre. Parce que là, tu rentres dans les explications des commentateurs. Donc, si on rentre dans l'explication des commentateurs, qu'est-ce qu'il a fait, Réhouven? Wouhou! Non, tu comprends. De là, ça lui enlève son statut de Bechor. Ah, caché. Aleph, halachiquement parlant, zelo oved, zelo tofes. Bête, même si tu me dis que oui, alors ok, alors donne à Shimon. Donne à Lévi. Ah, ils ont fait Shrem. Ok, donne à Yehuda. Ok, donne à Issachar. Donne à Zvouloun.
Non, pour le donner, il a peut-être donné à celui qui préférait. Enfin, mais maintenant pour l'enlever, est-ce que pour donner, ok.
Le statut de
Béhor. Parce qu'il a haïssé sa mère.
Ah, je sais pas si c'est pour ça. Je sais pas si c'est pour ça. La Torah, elle te dit quoi qu'il arrive, lo yevaker et ben aouva, le pne ben asenoa Béhor. Qui est à Béhor ben asenoa, yakir, la tête lo pishnaim, Béhor la chérie matzelo, qui ouvre shit ono, lo mishpat à Béhora. La Béhora, c'est pas parce que je te kiffe. La Bechora, c'est parce que c'est le premier qui sort de ma descendance.
C'est un droit.
C'est un statut.
Un statut, voilà.
C'est un statut. Ça ne dépend pas de si j'étais un tzadik ou pas un tzadik. C'est vrai ?
Oui, mais je disais tout à l'heure, c'est parce que cette fois, elle apparaît, c'est à cause de bien.
Voilà, on ne peut pas ne pas penser à ça,
d'accord. Mais je comprends bien ce. Mais je. Qu'est-ce qu'il prouve enfin,
Je ne sais pas pourquoi il a retiré à Rouven, il l'a donné à Yosef, ça c'est une réalité.
Socialement, c'était un particulier, il l'a sauvé, etc.
Il l'a sauvé pour l'instant. La mise en avant, Mais non, la mise en avant de Yosef, elle
c'est
est.
Le moment qu'il était dérangé.
La mise en avant de Yosef par rapport à ses frères, elle est dès son plus jeune âge.
Oui,
il n'avait pas transféré à ce moment-là, dès son plus jeune âge.
Mais pour l'instant, il n'y a rien à transférer. Tant que Yaakov il est vivant, il n'y a personne qui reçoit plus. Parce qu'il n'y a personne qui reçoit. Donc, au final, comment ça va se voir dans les faits que Yosef, c'est lui le Bechor? Bah, ça va être parce qu'il fait de Ephraim ou Ménaché deux tribus. C'est-à-dire qu'il reçoit double part d'héritage par rapport à ses autres frères. Donc ça se verra qu'à la mort de Yaakov, que lorsqu'il va mettre en place les 12 tribus. Mais dès le départ, il donne à Yosef sa koutonet passim, il le fait donc comme étant son successeur. Puisque Mazé a koutonet passim, alors Midrash va te dire que c'est la koutonet que de Adam Rishon et de Nimrod qui va arriver jusqu'à lui. C'est-à-dire, donc, Nachon, au début, ça, il ne va pas encore hériter, parce que tant que le papa il est là, les enfants, ils n'héritent pas. Mais au final, rétrospectivement, tu vas voir que dès le plus jeune âge de Yosef, Yaakov le choisit comme étant le successeur. Et ça, c'est un problème. Maintenant, on peut la tourner dans tous les sens qu'on veut. Zelotov, ma Shekara. Et donc, la Torah, elle vient te dire. Zelotov. Il faut ne plus faire ça. Biglal.
C'est un vote qu'il a fait, que c'est un modèle pour l'autre.
Justement, c'est un modèle qu'il ne faut pas reproduire. Ok, et c'est pour ça que le Talmud va nous dire Biglal ketonet achat yardu avotenu le Mitzrayim. À cause de la tunique qu'il a donnée à Yosef, tous les événements se sont enchaînés et on est parti en exil.
Oh, mais c'est la goutte qui a fait déborder le vase, c'est pas le...
Non, c'est la goutte du début celle-là.
Mais il n'arrêtait pas de répéter qu'il avait des
la cotonette,
des...
ça avant.
Et ben d'accord, mais c'est la goutte qui a fait déborder le
vase. Non, donc c'est la première goutte du vase.
C'était prévu aussi.
De quoi?
Ah, ça, d'abord.
Attention, c'était prévu qu'on parte en exil. Est-ce que c'était prévu qu'on parte en exil comme ça? Il a fait. Donc, non, est-ce qu'il y a à partir en exil parce que Nessi Elohim ata betochenu.
C'est
fait qu'il y a avant, mais Avraham, Yado Ateda, Kigeri Ezaracha, Beeretz Lolaem, Veavadum, Veino Otam, Alroem, Machana. Est-ce que c'est obligé de passer par une guerre fratricide entre les frères? Pas obligé, ça c'est pas marqué. C'est-à-dire, donc. On aurait dû descendre en Égypte parce qu'Akadosh Baruch Hu a dit qu'on doit descendre en Égypte. Est-ce qu'on n'aurait pas pu descendre en tant que, comme on a dit avec Abraham, Nessi Elohim ata betochenu? C'est-à-dire que je te rappelle que quand on est parti en Égypte, on aurait pu rester en mode au top. On aurait pu partir en Égypte avec Yaakov.
C'est un peu ce qui s'est passé, non?
Quoi, qu'on était au top?
Ah bah,
je te rappelle que. Non, il y a eu une période où on était sababa. Mais avant et après, on aurait bien aimé s'en passer. Franchement, si on avait pu réécrire l'histoire, on aurait préféré ne pas passer par toutes les balaganes entre Yosef et ses frères. Alors, c'est vrai, Kadosh Baruch Hu, il avait son idée aussi là-dedans. Il y a pas, c'est évident. Mais nous, le fait que Dieu il a son cave, sa ligne directrice, c'est une chose. Mais moi, je dois essayer de faire le mieux. Ça, ici, la Torah nous dit, fais attention. Il ne faut pas que ça réarrive. Ok ? Charles. On va pas pouvoir passer sur toute la paracha. Comme on a dit, il y a énormément ici de mitzvot. Mais je vous emmène directement à la fin de notre paracha. On a commencé avec le début. Je voudrais qu'on termine avec la paracha. Comme ça, on encadre toute la paracha. La fin de la paracha, c'est une phrase qu'on connaît très bien. Ok ? Donc, il n'y a pratiquement rien à apprendre dessus puisqu'on la connaît par cœur. Zachor. Sauf qu'on va s'arrêter sur ça. Zachor, Asher Asa Lecha Amalek, למה צריך לזכור? למה צריך לזכור? Pourquoi il faut se souvenir de choses?
Pour pas que ça se reproduise.
Il y a plusieurs zechirot qu'on dit le matin après la tefillot.
Esser
zechirot, il y en a qui disent Shesh zechirot. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de se rappeler de choses? On ne se rappelle de choses que s'il y a des risques que ça se reproduise. S'il n'y a pas de risque que ça se reproduise, il n'y a pas tellement besoin de s'en rappeler. Si le problème est terminé, zéro. Par exemple, est-ce qu'on a une mitzvah de se souvenir de la sortie de Ur Kasdim? Non. Pourtant, c'est un événement extraordinaire pour Avraham. Est-ce qu'on doit se souvenir de la sortie de Ur, lorsque Avraham il était à Ur Kasdim et il est sorti de la fournaise? C'est pourtant, pour Avraham, c'était un événement important. Sortie vivant de la fournaise, c'est pas rien. Mais non, nous, on doit se souvenir de la sortie d'Égypte.
Shabbat, la
Shabbat, la manne.
C'est
des
événements, c'est pas assez.
C'est trop grand, c'est trop beau. La manne, c'est quoi? C'est de se souvenir que Kadosh Baruch Hu l'amène à Parnassa. Vadaï. C'est ce que je te dis. On se souvient quand il y a un risque que ça se reproduise. C'est-à-dire qu'il y a un risque que si on oublie, on a enlevé le contact. Zachor et Yom HaShabbat. Parce que c'est le témoignage de la création du monde. Encore aujourd'hui. Zachor Asher Asa Hashem Elohecha le Miriam. La Shonara. Et donc, Zachor Asher Asa Lecha Amalek. Zachor Asher Asa Lecha Amalek, c'est actif. C'est proactif. D'ailleurs, concrètement, comment on fait pour se souvenir, halakhiquement parlant? On lit Parashat Zachor. Agave, entre parenthèses, si tu as, pour X raisons, pas été à la synagogue Shabbat Zachor avant Purim, tu peux la tzet l'idechova ce Shabbat. Ok? Si jamais tu as raté, c'est une mitzvah, donc tu peux venir pour le shvi'i de la paracha, et là tu sors l'idechova. Alors, comment ça peut se reproduire à Malek? Il n'y a plus du peuple Amalek. Voilà, on ne sait pas qui il est, on ne sait pas où il est. Mais par contre, on sait ce qu'il veut. Et il veut détruire le peuple juif. Par opposition à d'autres qui veulent asservir le peuple juif, qui veulent prendre la place du peuple juif, lui, il veut juste détruire Amisraël. Alors, et d'où on sait qu'il veut juste détruire Amisraël? Où est-ce qu'il nous attaque? Il nous attaque à un endroit qui n'est pas du tout son territoire. C'est-à-dire qu'on ne vient pas le déranger dans sa vie. Mais il veut juste nous attaquer. Il veut juste nous détruire. Ça va être le propre d'Amalek, de détruire Israël. Donc, effectivement, tu as raison de dire qu'aujourd'hui, il y a moins de risques qu'Amalek, enfin, il n'y a plus de risques que d'Amalek nous frappe. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Zachor et Asher Asalecha Amalek, derech, betzetrem mi Mitzrayim. C'est en chemin lorsque tu sors d'Égypte.
Par hasard.
Quoi? Pourquoi par hasard? C'est par hasard.
Non,
pas par hasard.
En chemin.
En chemin, pour l'instant, je suis juste en chemin. Ok? Mazé, en chemin, t'es entre la sortie d'Égypte et l'arrivée à la maison. Entre les deux, il y a le danger du chemin. D'accord? Ce danger du chemin, il a existé chez Yaakov, qui est parti de chez Lavan. Et avant de revenir chez Yitzhak, il y a le grand-père d'Amalek, Esav, qui veut le tuer. Quand on est sorti d'Égypte, on n'est pas encore arrivé en Israël avec Yoshua, va y avoir Amalek. Quand on sort de l'exil de Babylone, parce que Koresh, le roi de Perse, nous permet de partir, mais on n'est pas encore rentré à la maison, il y a Purim avec Aman qui veut nous tuer. Et quand on sort de l'exil de Rome, parce que les nations nous ont permis de sortir avec la déclaration Balfour et la SDN à San Remo, mais on n'est pas encore recréé l'État d'Israël, il y a la Shoah. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le danger de la destruction, c'est Baderer. Baruch HaShem, aujourd'hui, on n'est plus Baderer. Donc, il n'y a plus le danger de Amalek. Du moins, il n'y a plus le danger de Amalek chez Bagouf. Nahon, le danger de Amalek chez Bagouf, il n'y a plus. Donc, moi, je n'ai pas peur de l'Iran et de sa bombe atomique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se battre contre ça, évidemment. Il faut se battre autant que possible. Et je ne dis pas qu'il ne peut pas y avoir, malheureusement, des attentats et des drames qui vont toucher le peuple juif. Malheureusement, ça peut arriver. Et on prie pour que ça n'arrive pas. Mais ça n'a rien à voir avec la destruction totale du peuple d'Israël. Donc ça, on n'est plus en danger de ça. Mais on est, oui, en danger de Amalek chez Balev. Et Amalek chez Balev, Zemazé, quand est-ce qu'il est arrivé à Amalek? Chez Balev. Hein? C'est quand?
Non.
Quand est-ce qu'il est arrivé? C'est quoi le verset juste avant va y avoir Amalek? On était protégés par les nuées? C'est ceux que Amalek a attaqué. Mais c'est quoi le verset juste avant le verset qui nous dit « Et Amalek est arrivé ». Le verset juste avant, c'est le moment, comme tu dis, on remet en cause est-ce que HaKadosh Baruch Hu est avec nous ou pas. « Hayesh Hashem bekirbeno imayim » va y avoir Amalek. Donc, tu as Amalek concret, voilà, ça on a dit, il n'y a plus le danger, mais par contre, le danger de dire « Hayesh Hashem bekirbeno imayim » bien sûr qu'il y a. Est-ce qu'on est là parce que HaKadosh Baruch Hu nous a amené là? Est-ce que HaKadosh Baruch Hu est avec nous à chaque instant? Est-ce que la reconstruction de la terre d'Israël, l'État d'Israël, c'est Ribono Shel Olam? Ces questions-là, elles sont encore présentes. Donc, Zachor, Asher Asa Lecha Amalek, Bader, Betetrem Mitzrayim, Asher Karcha Baderech, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע. מה זה עייף?
עייף.
מה זה עייף?
Non, moralement, pas fatigue, pas une fatigue.
Voilà, c'est pas une fatigue physique.
Il est tellement conscient de ce quelque chose d'extraordinaire que ça ne vient même pas à l'esprit de penser qu'il peut être attaqué tout de suite après la sortie du jeu. C'est-à-dire, il y a eu un miracle. Et puis maintenant, on est sorti, on est simplement sorti. C'est-à-dire, il y a eu un miracle pour moi, vous et Dieu.
C'est ça qui les rend aïef, tu dis.
C'est quelque chose qui est difficile.
Aïef, c'est pas physique. C'est-à-dire, la fatigue physique, c'est. Aïef, ça se passe dans la neshama. La fatigue physique, comment on dit en hébreu? La fatigue physique.
Genre, je suis fatigué. Aïef.
Non.
Non. Le contraire de Aïef.
Yaef.
Yaef.
C'est-à-dire, tu dis tous les matins, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Anoten, la Yaef, Koach. Donc la fatigue physique, c'est Yaef. Ayef, c'est au niveau de la Neshama. Ata Ayef ve Yagea ve lo Yare Elohim. Ayef, Haye Hashem ve Kirbenu, Imaim.
C'est-à-dire que pour eux, ça a été une surprise d'être attaqué comme ça, tout de suite après un miracle pareil.
Et donc là, on te dit. Donc, והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויבך מסביב, בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. Et là, on te dit, après avoir détruit le souvenir d'Amalek, לא תשכח. N'oublie pas. Mais Zachor, c'est aussi de ne pas oublier. Seulement Zachor, c'est actif, et לא תשכח, c'est passif. En fait, Zachor, c'est tu fais quelque chose pour t'en rappeler. Lotishkar, c'est lorsque ça fait partie intégrante de toi. C'est-à-dire ? Mais il faut se rappeler quoi ? Pas seulement de ce que Amalek nous a fait, on a dit. Mais que Akadosh Baruch Hu est avec toi. Donc il faut t'en rappeler. Et comment tu t'en rappelles ? Tu fais Torah ou Mitzvot. Et Mazel Lotishkar, tu es Torah ou Mitzvot. Et ça, c'est beaucoup plus dur. Il y a une différence entre je fais quelque chose et je suis sur quelque chose. Oui ? Alors, le Amalek concret, le Amalek physique, il y a certainement des descendants d'Amalek quelque part, mais si on prend du point de vue de ce doute qui me fait dire que peut-être Akadosh Baruch Hu n'est pas avec moi, זה מה שנקרא Amalek Shebalev. C'est le Amalek du cœur. C'est pas le Amalek concret. C'est pour ça que j'ai dit il faut d'abord parler du concret, parce qu'on garde le pshat. Mais après, il y a aussi à l'intérieur. C'est une partie de l'humanité. De l'humanité tout entière. Dès que tu as ce sentiment que Kadosh Baruch Hu n'est pas avec toi, ça s'appelle Amalek Shebalev. Appelle ça comme tu veux, etc. Ça fait le doute, machin. Ça s'appelle Amalek Shebalev. Qui te. Fait dire qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas avec toi.
Amalek, c'est la même gématria que Safek.
C'est la même gématria que le mot Safek, le doute. C'est donc en fait, Zachor, c'est faire des choses, faire Torah ou Mitzvot. Lotishkar, c'est être Torah ou Mitzvot. Et c'est très différent. Il y a des gens qui peuvent faire Mincha. J'ai fait un vie. Il y a Tzatili Dechova. Il y a des gens qui sont Mincha.
Alors,
dis-moi.